tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
As-tu vu Knockout? As-tu vu Knockout? On est rendu au compte de 10, il n'y a pas de bout encore. On dirait que je peux pas m'empêcher de chanter la nouvelle introduction de Poulain Tremblay, le Knockout. Je reviendrai peut-être avec l'ancienne introduction à la demande générale de David Tétrault. On verra, là, je gère tout ça de main de maître. En direct d'une cuisine de Rosemont, Montréal, on est présentement la fin de semaine de Pâques. Et là, tenez-vous bien, là, chronique Marie-Pierre Roule où je vous raconte ma vie. Je me suis levé mardi, j'avais mal au dos. Okay? Je me suis levé mercredi, j'avais très mal au dos. Puis je me suis levé jeudi, j'avais de la misère à me lever. Okay? Je ne sais pas ce qui est arrivé, là. Je vous explique. Quand je suis couché ou assis, on dirait que mes lombaires se compressent. Et là, quand je me lève, on dirait qu'il se décompresse dans une souffrance terrible. Et là, je reste comme bloqué au niveau de la ceinture dorsale. Et, je peux vivre, là. Je peux aller au genre coup dessus, je peux prendre une marche, mais je n'étais plus capable de lever les colis pesants. Puis, j'ai pas manqué l'ouvrage parce que c'est pas mon style. J'ai pris des pilules. Moi, je prends d'autres choses que des Advil, OK? Des Advil, ça... Mettons, je sais pas, j'ai mal à l'âme, je prends un Advil. J'ai pris une brosse la journée d'avant, je prends un Advil. J'ai mal à l'estomac, je prends un Advil. Je me cogne, je prends un Advil. Là, j'ai pris des Advil / Robaxacet. Puis j'en ai pris deux, puis finalement, ça m'a quand même fait du bien. Donc, ce matin, quand Jean Coutu va ouvrir, je vais aller en chercher. C'était la chronique Marie-Pierre Houle, où je vous raconte ma vie. Et là, je profite de la fin de semaine. Aujourd'hui, j'aurais pu aller travailler à temps double, mais tenez-vous bien. Pour la première fois de ma vie, je manque du temps double parce que j'ai trop mal au dos. Il arrive un âge où tu es obligé de laisser de l'argent de côté, parce que ton corps ne suit plus. Et je suis rendu à cet âge-là ce matin. Je pense que c'est important de pas seulement prendre le congé de Pâques, mais aussi de le comprendre. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2022 ans, Jésus, humilié et battu et crucifié, alors que le peuple demande qu'il soit crucifié, Ponce Pilate, à chaque année, quand il arrivait ce temps-ci de l'année, crucifiait un bandit pour le plaisir du public. Et les gens ont choisi Jésus. Ponce Pilate va dire « Je m'en lave les mains ». C'est un peu l'ancêtre du Purel d'aujourd'hui. Et là, il va crucifier Jésus. Et là, Jésus va nous jouer un tour. Il va ressusciter trois jours après. Donc, depuis ce temps-là, la fête de Pâques est célébrée le premier dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe du printemps. C'est toujours comme ça. Et j'ai plusieurs informations pour vous, parce que c'est pas tout de fête et Pâques. C'est important de le comprendre. Et dans l'introduction, on s'instruit et après ça, on parle de boxe. Pourquoi les œufs de Pâques? L'Église interdisait de manger des œufs durant la semaine sainte. Les poules, eux autres, n'étaient pas au courant. Ils continuaient à pondre. Ce qui fait que ça créait un surplus. Et là, avec le surplus, on faisait des omelettes, des quiches Lorraine et des crêpes. Donc, c'était ça le concept. Il y avait tellement d'œufs d'accumuler que l'on créait un festin à base de tout ce qui est fait avec des œufs, des gâteaux, des omelettes, des œufs brouillés. Puis on invitait toute notre famille. Tu sais, c'était un peu ça l'idée. Aussi, pourquoi on a choisi les poules? Que c'est quoi l'idée là, de Pâques puis les poules? C'est que les poules recommencent à pondre avec la chaleur et la lumière du printemps. Donc, on profitait de la résurrection de Jésus pour célébrer le retour des déjeuners 2 œufs bacon. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'épicerie. Fait que tu attendais que ta poule ait encore l'envie de pondre. Pourquoi le chocolat? C'est purement commercial. C'était pour signifier la fin du carême, qui est le jeûne d'avant-Pâques. Pourquoi le lapin? C'est qu'avec le retour de la lumière, du soleil, les animaux se remettaient à se reproduire, un peu comme moi je vais faire grâce aux terrasses cet été. Et là, les lapins, eux, c'est le symbole de la fécondité. D'où l'expression F comme un lapin. Donc voilà, vous êtes beaucoup plus instruit, beaucoup plus intelligent grâce à votre podcast préféré. Cette semaine, on va parler du résultat entre Yordeni Ugas et Errol Spence. On va parler de José Lito Lopez qui a affronté Cody Crawley. Je vais vous raconter mon histoire d'amour avec Kim Clavel, où ça a commencé et où ça nous a mené aujourd'hui en championnat du monde. Et on va faire le tour de la carte du 21 avril. On a eu des annonces intéressantes pour le 5 mai. Passage chez les pros d'une amie de l'émission, Sarah Couillard. Donc, on va parler de tout ça. On va faire un beau tour. Vous allez pouvoir écouter ça pendant la Pâques. Et je rappelle que pour vos besoins en œufs de Pâques, en poules, en cochons, faites confiance aux fermes Saint-Martin. Les fermes Saint-Martin, des produits de qualité de notre ferme jusqu'à votre assiette. Cette semaine, le 21 avril prochain, au Casino de Montréal, pour le titre de la WBC version pas très pesante, Kim Clavel fera face à Yenesia Gomez. Et incroyable, hein? On a vu. C'est ça que j'aime d'être dans fleur de l'âge, c'est que tu vois les boxeurs arriver, tu sais, chez les amateurs. Mettons, j'ai vu Kim arriver. Il y a 13-14 ans. Et là, je la vois cheminer jusqu'à son championnat. C'est qu'on est dans l'âge où tu peux voir, mettons, un boxeur professionnel, ça peut se battre, mettons, de 10 ans à 38 ans. Je suis à l'âge où je peux voir les 28 ans au complet, parce que je suis pas mort encore, moi. Kim, elle va passer chez les pros avec Eye of the Tiger. Hey, j'étais là, OK? Mais, oh non, je vais partir du début. Première fois que j'entends parler de Kim Clavel, je la connais. Là, je sais qu'elle a une belle carrière chez les amateurs. Mais la manière que ça fonctionne, tu peux aller au championnat mondial junior, mais là, ils prennent X nombre de personnes, OK, pour aller au championnat mondial. Et là, la pauvre Kim, je raconte ça vraiment dans mes souvenirs. T'sais, si ça n'a pas de bon sens, m'appellerait pour me faire des plaintes en haute et due forme. Kim n'est pas qualifiée parce que, si ma mémoire est bonne, c'est Mandy Bougeau qui se qualifie. Donc, Kim, elle passe pas. Puis le problème, c'est que Mandy Bougeau, exemple, est 5e au monde. Kim est 8e au monde. La compétition, c'est les 32 meilleurs, mais ils prennent juste 3 personnes en Amérique du Nord, puis potentiellement juste une Canadienne. T'sais. Fait que tu te ramasses coincé derrière la prodige à Mendy Bougeot, qui était plus à l'aise dans cette catégorie de poids-là. Mais encore là, chez les filles, il n'y a pas toutes les catégories de poids. Fait que Kim est obligée comme de forcer pour aller dans une autre catégorie qui est moins naturelle. Donc, tu sais, c'est... elle n'est pas le côté A de l'équation, là. Donc, elle ne se qualifiera pas. Mais là, à la dernière minute, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gouvernement canadien est tellement pauvre qu'il paye juste pour une personne pour aller au championnat du monde. Il y a des coûts, là. Ça coûte entre 8 et 10 000 piastres, mettons. Fait que Mendy s'en va au championnat tranquille, si ma mémoire est bonne. Mais c'est la même histoire, mais peut-être je suis mêlé d'un nom puis d'un chiffre, mais vous allez comprendre. Là, à dernière minute, il y a quelqu'un, mettons, Costa Rica qui se blesse, et c'est Kim peut y aller, mais à deux jours pour trouver 9 000$, embarquer dans l'avion puis s'en aller là-bas. Ou trois jours, mettons. Et moi, là, je me reviens sur un 10 cents, j'organise un souper spaghetti au coin du métro. Mais là, Kim, elle m'écrit « Je travaille demain! » Là, je fais « Oups, souper spaghetti quand même. » Il y avait un combat, quelqu'un contre quelqu'un. Costa s'engage à donner 20% des profits. Mais ma soirée spaghetti est un désastre. On est 9 avec la mère de Kim qui vient représenter Kim. Costa arrondit à la hausse. Il me remet 142 piastres. Et là, je ne sais pas si vous savez, mais on est assez loin du 9000 merci. Mais j'écris à mon bon ami Mathieu Boulay pour lui expliquer ce drame humain qu'on vit. Et Mathieu fait un encore dans le journal. Et là, grâce à mon souper spaghetti et grâce à moi, il y a quelqu'un qui écrit au Journal de Montréal, puis du moins, je suis riche à péter. Je ne sais plus quoi faire de mon argent. Je vais vous transférer le 9 000 $ qui manque. Là, Mathieu dit « Oui, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre votre nom dans le journal? » La personne dit « Anonyme. J'ai pas le goût de me faire enquêter par le ministère du Revenu. Transfère le 9 000. Kim met ça dans son compte chèque. S'en va au championnat du monde. Ma mémoire est bonne. Elle finit entre 5 et 8. Tout le monde est heureux. » Donc, Kim, c'est comme ça que je l'ai connu la première fois. Après ça, je suis allé à des galas de boxe amateurs à la boxe Montréal. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que les gens de boxe Montréal, une fois qu'ils se sont battus, ils prennent une douche, ils s'habillent propre et là, ils aident à vendre la bière, les Gatorade pour financer le gym. Fait que Kim, elle avait une magnifique robe fleurie. Et elle servait de la bière. Fait que, tu sais, je sais pas si vous le savez, là, mais quand il y a une belle fille de même, j'étais allé en boire de la bière, puis là, je garochais du gros pourboire. Là. C'est pas rare, je mettais des belles pièces rondes dans le pot de pourboire. Après ça, Kim va être signée par Eye of the Tiger Promotion. Elle va passer pro en 2017. Premier combat qu'elle est supposée faire, son adversaire rate le poids complètement. Le combat est annulé. Là, je viens pour aller réconforter Kim. Je vois dans ses yeux qu'elle n'a pas envie de parler à personne. À part, elle pèse sur le piton de l'ascenseur et elle sac son camp. Elle n'était pas contente. Elle va refaire son passage chez les pros, c'est son cadeau de Noël, un 16 décembre 2017 contre Yoseline Martinez-José, qu'elle va battre au juge. Après ça, elle débâtit la compétition. À son cinquième combat, elle a déjà une bonne adversaire. Anna Victoria Polo, c'est là que les classements puis l'international est arrivé. Elle va faire avec Polo la même performance que font les championnes du monde avec, c'est-à-dire la blanchir. Après ça, ben, elle bat tout ce qu'il faut battre sur le marché. Là, c'est un marché, la boxe féminine. Et ça va mener à la pandémie. La pandémie va mener avec le fait qu'elle retourne travailler. Elle gagne le prix Pat Tillman, vu qu'elle est infirmière qui est retournée travailler. Elle gagne tous les prix sur ESPN. Elle fait le tour des médias. Elle vient ultra populaire. On ne sait plus quoi faire avec tellement qu'elle est populaire. Elle va se battre en sous-carte de Valdez, Berlanga, puis Isaac Dogbo contre une fille qui s'appelle Nathalie Gonzalez qui a gagné les gants dorés à New York. C'est un combat où Kim est favorite, mais pas tant que ça sur les preneurs au livre. Puis on craint cette Nathalie Gonzalez, OK? Mais Kim va la défoncer. Elle va techniquement l'amener à la petite école avec la boîte à lunch en dessous du bras. Il n'en faut pas plus pour qu'une superstar soit créée. Kim, après ce combat-là, c'est dans son droit. Elle quitte Eye of the Tiger, son contrat est terminé. Elle devient la joueuse autonome la plus populaire le 1er juillet. Il y a 32 équipes qui veulent lui donner un contrat. Et elle prend elle-même la décision, à part avec Larouche et Daniel Bouchard, Stéphane Larouche, à part avec son entraîneur, Daniel Bouchard, Stéphane Larouche, qui était conseiller, vous vous en doutez, secret à cause de son conflit avec Eye of the Tiger. Et là, ils vont sonner au bureau de groupe Yvon Michel. Yvon Michel les reçoit, il est un peu surpris. Il dit, écoutez, est-ce que le contrat est terminé? Sinon, c'est du maraudage, je ne vais pas finir en prison. Kim dit, mon contrat est terminé. Yvon Michel la surprend. Il connaît déjà les championnes, il connaît déjà l'état de sa division, les 108 livres. Donc, on a un mariage qui est facile, un mariage de raison et aussi un mariage d'amour. Kim va passer pro, mais on est en plein milieu de la pandémie. Yvon va forcer les choses, va les envoyer se battre, elle et Marie-Pierre Roule au Mexique, où elle va affronter une adversaire de 3-8, mais très résistante. Elle va la battre au juge. Après ça, on lui trouve l'adversaire qui débloque tout. Maria Soledad Vargas au Stade Jarry. Kim fait la performance de l'année, quasiment combat de l'année. Tout le monde est heureux, on se garoche de la bière en foule. J'ai une pancarte, marie-moi Kim. Elle va détruire... Après, les trois premières rondes sont chaudement disputées. Après ça, elle ouvre la machine. Elle va battre Maria Soledad Vargas aisément. Après trois rondes très compliquées, là, des rondes partagées. Après ça, elle commence tout le reste du combat. Fait son combat, a une blessure au bas du corps. Règle sa blessure. Son adversaire demande plus de temps. Et là, elle va faire un tune-up fight contre Maria Ribeira Valverde, qui n'était pas une grande boxeuse. Et là, ça nous mène à ce championnat du monde le 21 avril. Donc, pourquoi Yesenia Gomez? Mais il y avait quatre championnes chez les 108 livres. Il y en a une qui détonne un peu. Pourquoi? Elle a 26 ans. Elle a 19 victoires, 6 par KO, 5 défaites, 3 nuls. C'est une bonne boxeuse, mais c'était un peu le maillon faible de sa division. Elle a perdu 2 combats en début de carrière. Mais écoutez, elle avait 15 puis 16 ans. Elle a perdu des combats contre les sœurs Valente, Dorelli et Arely Valente. T'sais, elle a affronté des sœurs. Elle n'a pas gagné un round contre les deux. Après ça, elle va obtenir une revanche contre une des sœurs Valente. Là, elle va faire un combat serré. Tu vois, déjà là, elle s'était améliorée, elle vieillissait. Tu sais, un petit peu trop jeune. Là. Donc, moi, je m'en fais pas trop pour les défaites à 15 ans. Dans ces gros combats, elle va faire 2 combats nuls contre Jackie Calvo. Elle va perdre une décision serrée contre Marie Guadalupe Bautista. Ça, c'est plus contemporain. Depuis ce temps-là, depuis 2017, elle a une victoire puis une nulle contre Esmeralda Morello, qui était une fille qui était supposée affronter Kim aussi. Et là, pour le moment, elle aussi, elle a affronté Anna Victoria Polo. C'est quelqu'un qui, sur papier, aurait possiblement battu toutes les filles que Kim a battues, mais on semble avoir vu des... C'est très étrange parce que est-ce qu'on a vu des limites en 2018 contre Moreno? Oui, on a vu des limites contre Calvo puis contre Bautista. Mais en 2017 et en 2018, on recule de 4 ans, elle avait seulement 22 ans. C'est quoi sa courbe de progression? Je ne le sais pas. Il n'y a pas assez de vidéos sur le net. À son dernier combat, par exemple, elle a trimé très dur contre une fille de 6-7, mais elle était rouillée. Moi, je vais y aller une prédiction. Là. Je suis même pas inquiet. Okay? Ça va être 1-1 après 2 rondes. Kim va ramasser le reste du combat. Prédiction finale et officielle, 99-91 pour Kim Clavel. Yvon Michel va avoir 3 champions du monde simultanément. et 2 chez les filles. Victoire de Kim Clavel, 99-91. Les trois juges contre Yesenia Gomez. Pour écouter ça, si vous êtes américain, européen, sud-américain, vous m'écoutez en Allemagne, beaucoup d'Allemands qui nous écoutent, fit.tv. Sinon, c'est au canal Indigo. Sur la sous-carte, écoutez, pour vrai, je trouve qu'on est allé un peu faible sur la sous-carte. Là. Dieudonné Wilfred C.I. Nzengue va affronter David Benitez. Benitez 8-5, mais faites attention, un gars qui s'est battu en série mondiale de boxe, un Argentin, quelqu'un qui a oublié de protéger sa fiche, a jamais été arrêté. Le combat devrait être balancé, surtout en début de combat, mais Wilfred Tilly, trop bon pour lui. Louis Jourdain, 3-1, va affronter un boxeur invaincu de 3-0. Louis Jourdain, c'est assez simple. Il a dit à Vincent Morin, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, là, mon étampe, t'as même pas besoin de me le demander, tout est accepté d'avance. C'est ce qu'on appelle un vrai fighter. Derek Pomerleau, qui avait jeté la foule à terre à son dernier combat, a un adversaire de 1-0. Éric Basran affronte Jorge Castro. Castro a perdu ses 4 derniers combats. Toutefois, il n'est pas allé au tapis. Il vient de faire la limite 4 fois au Canada. T'sais. Kyle McNeil, c'est un Canadien. Ça. Ouais, exact. Je ne m'étais pas trompé. Je me trompe. Il vient de faire la limite 4 fois de suite. Non, même pas. 5 fois de suite au Canada. Wayne Smith, Kyle McNeil, Joey La Violette. Donc, La Violette l'a arrêté. Carliette Santoro puis Louis Jourdain. Il a fait la limite 4 fois sur 5. Donc, on le ramène contre Basran. C'est de bonne guerre. Basran est juste 1-0. Là. C'est du matchmaking qui se tient. Et Samuel Lajoie-Déry va passer chez les pros contre Benjamin Solard-Martinez. C'est jeudi au Casino de Montréal. Donc, ce sera le, comme on appelle dans le jargon, le talk of the town. La discussion de la semaine. Et ça va être beau, ça. Ça veut dire que Kim gagne jeudi soir. On finit la semaine avec Kim et sa ceinture de championnat. Yvon Michel n'a pas pu venir au fameux podcast Poulain Tremblay vendredi passé. Il y avait d'autres engagements qu'il avait oublié de regarder dans son agenda. On lui pardonne. C'est partie remise. On va recevoir Yvon Michel vendredi le 6 mai prochain en direct sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, le site de ton choix. Donc, on va le recevoir quand Kim sera devenu championne du monde. Donc, c'est un Yvon Michel bonifié qu'on va recevoir. C'est la fin du segment. Je m'en vais au IGA dans mon quartier pour célébrer Pâques. Je vais m'acheter des œufs, du fromage, une petite fève au lard. Puis, en arrivant à l'entrée du IGA Extra, j'entends le commis qui parle fort puis qui dit « La nuit passée, on s'est fait voler pour 3 000 $ de cigarettes puis pour 2 000 $ de carottes. » Il dit « On n'a pas le choix. Les caméras de sécurité ont tout filmé. On va afficher un portrait robot. » Fait que je m'approche. Le portrait robot, c'est un lapin qui tousse. Laurent Poulain, le spectacle. Bientôt sur des planches près de chez vous. Bonjour, on est rendu dimanche de Pâques pour le podcast que j'ai construit en deux temps. Là, j'ai juste fait le segment de Kim Clavel un peu à l'avance parce que dimanche matin, je voulais pas enregistrer pendant une heure parce que il se passe beaucoup de choses. Fait que je me suis dit, vieux truc, le segment de Kim, il bougera pas. Fait que je vais le pré-enregistrer samedi. Fait que c'est un petit truc. Fait que je veux pas non plus faire à croire qu'on est la même journée. Vous avez deux journées de Laurent pour le même prix. Hier, c'est-à-dire samedi, j'aimerais remercier Farley Avocat et Marie-Pierre Hull. On était invités au Funtropolis à Laval pour une petite fête d'enfants. C'était la fête de l'héritier Farley. Et en tout cas, dire une affaire, le Funtropolis, là, même pour les adultes, là, le petit canon à fusil à mousse avec les canons avec les balles de mousse,
l'escalade, les autos tamponneuses. Philippe nous a payé de la pizza. On pigeait des bonbons puis des chips. Maudite belle journée. J'ai adoré. Donc, merci, Phil. À défaut d'avoir des enfants, ben je peux surveiller les votes pour me rappeler c'est comment. Là, après ça, j'arrive chez nous. Puis, il y avait de la boxe en Angleterre. Il faut que je vous parle de ça. Il y avait un gala présenté sur DAZN. Puis, à l'autre poste, il y a une série qui s'appelle Boxer. C'est comme un King of the Ring. C'est 8 boxeurs, un tournoi. Et ça se bat, là, un combat après l'autre. Puis, à la fin, il y a un gars qui a gagné 3 combats de 3 rondes. Puis, qui est devenu le nouveau champion de boxeur. Je vous en parlais tantôt. Ça donne lieu à de la boxe assez spectaculaire parce que la manière qu'ils prennent des gars qui ont comme 0 knockout en 8 victoires professionnelles ou 2 en 16, puis là, ils sont dans un format 3 rondes où ça va super vite. Fait que les gars se swingent à qui mieux, mais pas de force de frappe. Fait que ce que vous pensez qui arrive? La plupart des combats se rendent à la limite, puis c'est endiablé, ça n'a pas de bon sens. On va y arriver. Connor Bean a... détruit Chris Van Herden. Là, Bean, il commence à passer tous les tests qu'on met devant lui. Son promoteur a dit c'est la dernière fois qu'on faisait un combat de progression. Maintenant, c'est que de la grosse gomme. Chris Bilal Smith a battu Tommy McCarthy avec un crochet du droit. Okay? Les deux boxeurs étaient coupés. C'était... assez grandiose. Chris Bilal Smith a surveillé chez les 200. Ces deux gars-là pourraient s'affronter encore 3-4 fois. C'est un merveilleux combat domestique, comme on dit dans le monde de la boxe. Alicia Baumgartner, ça m'a insulté parce qu'elle a appelé son adversaire à une semaine d'avis. L'adversaire est arrivé ici, c'est même pas forcé pour faire le poids. Elle disait, ma comique, tu veux m'appeler la dernière minute? Tu m'auras pas au poids. Finalement, Edith Soledad Matisse a fait la limite. Donc, quand même pas pire, hein, ça. T'es chez vous tranquille, tu sais pas, t'es en championnat du monde la semaine d'après. C'est insultant. Campbell Hatton, le fils de l'autre, avait un premier... pas un test, là, mais affrontait un boxeur tough avec une fiche épouvantable. Épouvantablement mauvaise. Mais un gars qui avait un menton. Puis Hatton a gagné au juge... C'est pas le père, hein, comme on dit. Après ça, l'autre, je sais pas pourquoi, mais à l'autre poste, j'ai écouté Nathan Iné, qui est un... On essaie de nous le vendre comme un prospect chez les moyens. Au premier, il était sur le derrière, s'est relevé, il a gagné tous les rondes contre un bon boxeur, là, Diego Ramirez. Mais on essaie vraiment de nous vendre Nathan Iné comme s'il avait inventé le pain tranché. Mais je vous annonce qu'il n'a même pas inventé les croutons, là. Fait que Nathan Iné, attendez-vous à le voir dans des grands combats parce qu'on le pousse, mais c'est pas terrible. Puis il y avait une finale, c'était bizarre ça. Jason Cunningham, 30 victoires, 6 défaites, affrontait Terry Le Couviure, 16-0. Puis finalement, Le Couviure, à chaque fois qu'il se faisait pincer au corps, il était couché à terre. Fait que ça, c'était, je sais pas pourquoi, c'est les combats que j'ai écoutés dans l'après-midi. Après ça, sur Boxer, il y avait la série que je vous parlais, là. Hey, ça a pas de saint bon sens. Là, ça commence, Bent bat un gars qui s'appelle Sec. Mais après ça, il y a Chima. Chima, c'est, non, ça, c'est, je pense que je suis mêlé, là. Ça, c'était, il y avait... Ryan Charlton qui a battu Sean Cooper en commençant. Après ça, Chima a battu Melvin. Cooper, il a comme eu une deuxième chance. Il a battu Tilly. Là, il y avait un gars qui... Je sais pas trop comment ils font leur tournoi. Mais tout ça a culminé pour la finale en Dylan Chima, 4-0. Un boxeur avec aucune force de frappe. Qui affrontait Ryan Charlton, un gars qui avance comme un fou. Puis Dylan Chima... était clairement le boxeur le plus intelligent, le mieux structuré de toute cette gang-là, malgré qu'il n'y a pas de force de frappe. Fait qu'il a réussi comme à outboxer tout le monde un peu avec la distance. A gagné 2 ou 3 combats dans l'après-midi. Puis après ça, non. Après ça, Chima finit par se faire knocker. Et là, c'est vrai, je suis mêlé comme un cheval d'un jeu de quilles, mais je vous le dis, c'est incroyable. C'est un tournoi, mais... tu peux comme revenir. Puis là, ils t'envoient ça un combat après l'autre. Ils font même pas de... C'est à peine s'ils montrent le tableau. Fait que c'est ça. J'ai écouté ça toute l'après-midi hier. Puis j'étais bien accroché sur Dylan Shima puis Rylan Charlton. C'est des combats que j'écoutais tranquille. Fait que c'est quand même assez... assez spectaculaire, c'est ça. Shima, il a gagné, là. Je suis mêlé aujourd'hui. Mais, puis Shima était... J'ai regardé ça aussi avec les cotes sur les paris sportifs. Moi, j'aime bien ça. Pimenter mes après-midi de boxe avec quelques dollars. Puis Shima était toujours négligé à chaque combat. Puis il gagnait chaque combat. Fait qu'un moment donné, comme je me suis mis à aimer Shima à partir du combat 1, fait que j'ai fait quelques petits dollars avec lui. Par après, je vous le dis, si jamais vous êtes tranquille à la maison, vous voyez ça passer, pluguez-vous. Et là, le soir, il y avait la méga carte, mais là, vous allez capoter. Là. J'étais parti au centre-ville, j'écoutais le Canadien. Après ça, mes amis parlaient du match des Nuggets de Denver. Là, j'ai écouté du basket. Là, finalement, j'étais fatigué. Là, le combat de Spence, c'était tard, puis... Mais je commençais à être éméché aussi. J'ai pris une coupe de bière, n'ayons pas peur des mots. Fait que finalement, tout le gala de Errol Spence, il est sur l'enregistreur. Tu sais. Fait que là, le podcast de boxe que le gars fait son émission avant d'avoir écouté le grand combat, c'est moi. Ça fait partie un peu du personnage. On fait les choses différemment, comme dirait Denis Lévesque. Vito Milnelki Jr., j'avais parlé la semaine passée, a battu Dan Carpency, le frère de l'autre. Brandon Lee a gagné tous les rounds contre Zachary Ochoa. Moi, j'étais organisateur de boxe. Brandon Lee, Yves Ulysse. On va voir ce qu'il y a dans le corps, ce Brandon Lee-là, qui est un méga prospect. José Valenzuela a gagné 11-0, met la main sur un titre WBC continental. Bon, dans les combats qui nous intéressaient, OK? Isaac Pitbull Cruz a arrêté Gamboa au cinquième. Pitbull Cruz, c'est ce boxeur qui avait causé toute la misère du monde à Gervonta Davis. Et là, tout le monde veut, sans dire se faire la dent, tout le monde veut Pitbull Cruz, mais tout le monde en a peur en même temps. Puis là, hier, c'est Ryan Garcia qui faisait accroire qu'il était bien intéressé à Pitbull Cruz pour montrer que lui est plus dominant que Gervonta Davis. Cody Crawley, qui est le meilleur boxeur au Canada. Tu sais, si on calcule que Beterbiev est virus, tu sais, puis que Rivas est colombien, en se servant de l'algorithme BoxRec qui place les boxeurs selon leur lieu de naissance, Cody Crawley est présentement la plus belle chose au Canada, une machine à lancer des coups de poing. Là, il a gagné une décision unanime contre Joselito Lopez. Lopez va être mûr pour son régime de pension. Et Ilmantas Stanionis, mon favori, Ilmantas Stanionis, ça c'est pas un doux, c'est un boxeur très technique, a battu par split décision Rachad Boutaev, devient champion world de la WBA. La WBA qui multiplie les ceintures. Et Errol Spence, ça, c'est, mais écoutez, là, Errol Spence a arrêté Yordeni Ugas au 10e. Il est face défendu. Ugas était plus reconnaissable. Spence, c'est une machine à lancer des coups de poing, puis il frappe avec autorité tout le temps. Là, il avait gagné... menait 88-82. Mon ami Martine Vallière-Bisson dit, c'est ça, passe à Rumba, centre-ville, puis manque les gros combats. Tu sais, c'était vraiment bon. Bon, l'écouter tantôt, c'est juste que je veux vous donner un podcast pour que vous puissiez vivre Pâques avec moi. C'est un peu le concept. Je ne veux pas vous laisser seul, mais puis j'aime ça, moi, regarder mes combats des fois plus tard, tu sais, ça me détend. Ce matin, j'appelle Vincent Tremblay. J'ai dit « Bonne fin de semaine, Pascal! » Il me répond « Mon nom, c'est Vincent. » Ça, c'est peut-être pas ma meilleure blague, tu sais. Avant, on appelait Pâques la fin de semaine Pascal. Dans le fond, je sais même pas vraiment pourquoi. C'est pas ma meilleure blague, ça. Peut-être falloir que j'arrête de m'improviser aussi humoriste amateur. La fin de semaine prochaine, ben on a le gala de Kim Clavel le 21 que j'ai descendu pas mal en début d'émission. Sinon, ben jeudi le 21, la même journée, Joël Diaz Junior va affronter Mercito Gesta. Je l'ai mis sur ma feuille mobile, c'est plus, je vais pas l'écouter, mais je vais regarder les résultats le lendemain. On va quand même se concentrer sur notre bon ami Kim Clavel. Ça risque d'être quelque chose, hein, parce que j'ai hâte de voir le nombre de journalistes sur place. Est-ce que Novo va être là? Est-ce que dans la foule, on va voir Jean-Thomas Jobin puis Varda dans les premières rangées? Est-ce que tout le Jet Set va être là? Vendredi prochain, Jean-Riel Casimiro contre Paul Butler en Angleterre. Sam Maxwell contre Alejandro Menendez. Ils sont chanceux, les Anglais. Ils ont tout le temps de la bonne boxe. T'sais. Nous autres, bon, on a de la bonne boxe, mais on en a moins. En Angleterre, je pense que tu te lèves le matin, tu peux assister à un grand combat à quelque part. Parlant grand combat, quel lien samedi prochain, bien sûr, en Angleterre. Un combat qui est très attendu, puis plus que tu te rapproches, ça j'ai remarqué ça, plus qu'on se rapproche d'un combat, plus qu'on veut croire que l'adversaire qui est négligé à 10, 12, 14 contre 1 a des chances. Sinon, on se trouve niaiseux de passer du temps devant un téléviseur pour regarder un mismatch. T'sais, regardez, les Canadiens affrontent Washington hier. On a envie de croire que le Canadien a des chances. On ne l'écoute pas en se disant ça va finir 8-4, ça va être poche. Fait qu'on s'installe, puis on croit aux Canadiens. On dit, est-ce que le retour de presse va galvaniser ce club? Finalement, 5 défaites de suite. Là, on veut croire que Dillian White, avec sa main gauche en crochet, peut déranger Tyson Fury. Probablement que Fury va jouer avec Dillian White, mais on s'intéresse à la main gauche de White. White, qui frappe fort, a tendance à recevoir beaucoup de coups, toutefois. Et... ma prédiction, Tyson Fury au juge, ça va être un spectacle. Les deux s'aiment pas. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer leur conférence de presse. Il y a eu beaucoup de critiques en Angleterre à propos de la sous-carte. T'sais, je vais vous donner des chiffres. Ça, c'est... Mon ami trouve toujours ça drôle. Il dit pourquoi les gars ils se battent quand ils sont 0-10, mais je vais vous donner des fiches pendant leur sous-carte, okay, en Angleterre. Il y a un boxeur qui s'appelle Barney Smith, 1-0, qui affronte Radol, 0-10. Kurt Walker, 1-0, contre Nikolai, 3-31. Carol Itoma, 6-0, contre Michael Siak, 2-11. Tu sais, ça va la sous-carte. Tommy, beaucoup de gens qui ont chialé aussi parce que Tommy Fury, qui pour vrai n'est pas un grand boxeur, il a surtout le même nom de famille, lui il va affronter son premier corps vivant avec Daniel Bucianski. C'est drôle parce que tout le monde se range derrière Bucianski parce que Fury c'est quasiment du théâtre. Là. Il est très musclé mais c'est pas un grand boxeur. Puis on nous a rien mis en sous-carte. T'sais. Isaac Lowe contre Nick Ball, puis Anthony Cacassé contre Jonathan Romero. Oh, on nous demande la palette pour les pay-per-view, même pas capable de nous mettre un petit combat de soutien en demi-finale. Donc, c'est ça, Fury contre White. On n'est pas si gâté que ça avec la sous-carte. La finale risque toutefois de livrer la marchandise. On nous somme toujours la fin de semaine de Pâques. Je vais vous donner... souvent, tu sais, les gens me demandent qu'est-ce qui est ouvert à Pâques? C'est facile. Absolument rien. Sauf ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, qui ne connaît pas les journées fériées. Aussi, les nouvelles québécoises. J'ai le droit de vous en parler, je pense. Sur BoxRec, ils ont sorti que, tu sais, Jonathan DiBiella passait chez les pros. J'ai fait l'annonce. Finalement, on m'a dit, fais pas l'annonce. Son contrat en kickboxing, je pense, sont pas au courant. Tu sais. Fait que ça m'a quand même fait sourire cette semaine. Tu sais. Le gars sur BoxRec, mais il faut que j'enlève l'annonce sur Boxing Town. Il y a aussi Sarah Couillard qui va passer chez les pros. On va en parler la semaine prochaine. Sarah qui est très sympathique. Nouvelle à l'international. Oscar De La Hoya a offert 1 million US à la table à Isaac Pitbull Cruz pour affronter Ryan Garcia. On risque d'être capable de se rendre à ce combat-là. J'ai pas l'impression que Isaac Pitbull Cruz est du genre à refuser, ben à reculer trop dans la vie. Il a l'air de tout, sauf quelqu'un qui recule, notre Isaac. Sinon, bien sûr, après sa victoire, la victoire de Errol Spence, la première affaire qui est arrivée, mais c'est toujours la même maudite affaire depuis le début. À chaque fois qu'Errol Spence ou Terence Crawford gagnent, la seule chose qui revient, c'est « on va s'affronter, là, on va s'affronter ». Puis là, finalement, on attend, puis on voit d'autres boxeurs se pointer. Donc, Errol Spence dit « Terence, j'arrive pour les ceintures ». Pendant le gala de Errol Spence et Yordany Ugas, il a fallu que la sécurité sépare David Benavidez et Germal Charlot. Benavidez gagnerait à se concentrer sur David Lemieux et gagnerait à arrêter de se chicaner dans le public. T'as plus 4 ans, là, t'es chicané dans la foule. Mon Dieu! Germal Charlot, lui, a dit qu'il voulait affronter Canelo Alvarez. Il a pris de l'affronter. Conor Bean a ouvert beaucoup d'yeux. Les gens s'attendent à un combat contre Kell Brook et Conor Bean à quelque part en septembre. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec cette idée-là. Kell Brook, c'est plus une fleur du printemps. Je trouve que Bean gagnerait à plutôt aller se chercher des adversaires classés, mais souvent, une ancienne gloire pour faire ta promo, écoute, ça vaut la peine. Sinon, Tim Bradley, qui a tout le temps un mot à dire, lui, il dit que si Spence affronte pas Crawford, il faut quasiment commencer le boycott parce que ça a plus d'allure. Ces deux-là, là, je dirais qu'ils ont assez maturé. Une autre chose que vous allez entendre beaucoup dans les prochaines semaines, on va commencer à mousser que Dimitri Bivol est un danger public pour Canelo Alvarez. Là, c'est Mickey Garcia qui est sorti cette semaine. Eddie Hearn aussi parle que c'est bien inquiétant. Bivol est un gros 175, un gars qui lance du volume, qui travaille intelligemment sans chercher le KO. On commence, vous allez voir, puis possiblement que c'est avec raison. Mais Bivol va être dépeint dans les prochaines semaines comme un danger public. Dans les histoires qui sont drôles, Andy Ruiz Jr. avait annoncé un combat contre Tyrone Spong en juillet prochain. Puis Luis Ortiz a sorti le contrat puis il a dit ben, parce que t'as signé contre moi. Sans dessin. Fait que là, finalement, Luis Ortiz a réobtenu le combat en sortant le contrat. Fait que pendant une journée, Ruiz affrontait Tyrone Spong. Puis le lendemain, ben là, c'est redevenu Ruiz contre Ortiz. Toujours drôle, ces petites histoires-là en boxe. Moi, ça m'a fait rire. David Avanesian, lui, a lancé... a encore lancé un défi à Conor Bean. Puis Conor Bean, il dit, ben, il fait juste signer le contrat, tu sais. J'ai pas vraiment d'intérêt de t'affronter parce que t'es juste... T'as pas de ceinture intéressante, tu sais. Moi, mes affaires vont bien. Là, il joue un peu la grosse tête. Puis Avanesian, lui, qui est comme domicilié en Angleterre, veut probablement collecter ce chèque-là. Est-ce que Conor Bean, je veux dire, c'est la grosse affaire, là, est-ce qu'il est prêt pour Spence puis Crawford? Parce que je vous le dis, c'est, avec ce qu'il a fait à Van Erdan, là, il va intéresser des gens. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, toute cette histoire-là. Tu sais, quand tu montes quasiment trop vite, tu fais quoi après? Tu sais, c'est, je vous le dis, là, j'ai bien du questionnement à propos de tout ça. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Jeudi, on écoute le combat, bien sûr, de Kim Clavel, disponible sur Canal Indigo pour la somme de $60. Ceux qui ont les moyens d'aller sur place,
Les billets sont pas donnés, par exemple, mais je voulais y aller. T'sais. Vous avez moyen, allez-y. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille sur la scène locale? Je vous dis, il va y avoir des annonces bientôt. Eye of the Tiger, j'entends des dates en juin. J'entends un retour à Shawinigan. Du côté d'Yvon Michel, ben, ça va être sa semaine médiatique pour Kim Clavel. Donc, probablement que les gens vont l'achaler à savoir qu'est-ce qui se passe avec Oscar Rivas et Marie-Ève Dicker. Donc, toujours intéressant de, t'sais, d'être à l'écoute de tout ce qui se fait. Comptez sur moi pour ouvrir mes grandes oreilles. Dieu sait que j'ai des assez bonnes oreilles. Il y a Mathilde Baraillé qui va passer chez les professionnels le 23 avril. Quelqu'un qui vient du circuit québécois, qui met les gants avec tout le monde que j'aime, là, comme Martine Vallière-Bisson, Sarah Couillard, Kim Clavel. C'est tout. Ça s'entraide, ces amis-là. Et on a vu l'annonce officielle pour Chris Namus contre Mary Spencer. Vous savez que je baigne là-dedans un peu comme un cochon dans la marde, là. J'aime ces affaires-là. On a reçu Marc Ramsey la semaine passée. On était supposé avoir Yvon Michel qui s'est mêlé dans son agenda. On va l'avoir dans deux semaines. On est aussi avoir Yann Pellerin la semaine prochaine. Il faut juste que je confirme avec Yann. Des fois, Yann, tu confirmes pour l'avoir. Puis lui, tu te réveilles, il est rendu à Las Vegas, tu sais, dans une piscine. Fait que des fois, il faut juste que je lui rappelle. Sinon, si je ne suis pas capable d'avoir Yann Pellerin, je pense que je vais inviter son bras droit, Paul Dubé. Comme ça, je vais parler de New Era avec le bras droit. Fait que ça va compenser. Fait que merci d'avoir été là. Je pense que ça fait le tour du podcast numéro 122. Et j'aimerais remercier aujourd'hui, à chaque semaine maintenant, je vais remercier un auditeur au hasard. J'aimerais remercier Nathalie Bruno d'être à l'écoute.
As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui met cold. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town.